ce retour en gloire pour combattre toutes ses armées et l'Antéchrist avec elle, ainsi que le faux prophète, c'est-à-dire la deuxième bête qui monte de la terre. Alors, il y a une première bête dans les premiers versets d'Apocalypse 13, et ensuite il y a l'apparition d'une deuxième bête. Et nous avons expliqué pourquoi cette expression « bête ». Parce que la Bible, d'une façon générale, dit ce qui suit, « humanité sans divinité égale bestialité ». Et ceci s'est révélé exact depuis le commencement. Toutes les fois où les hommes ont abandonné l'Éternel pour faire leur route à eux, alors ils ont eu des sentiers, des chemins de bestialité. Et alors qu'il est plus que jamais, nous nous ravalons au niveau de la bête. Il est curieux que on nous ait enseigné que nous descendons de la bête. Vous ne trouvez pas ça bizarre? À ceux qui pensent ça, moi je dis autre chose. Je dis non, nous ne venons pas de la bête, mais nous allons vers la bête. Ah oui, ça oui alors. Certainement. Oui, Dieu les combattra. Zacharie donc... Et 45, plutôt 14, verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et puis ensuite, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Évidemment, les pieds de l'Éternel, ce sont les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi encore une autre précision? Parce que l'Antéchrist aura établi son quartier général pendant cette guerre, très exactement où le situe Daniel 11, 45. Nous allons tourner quelques pages et nous allons voir justement où l'Antéchrist va établir son quartier général pendant cette guerre. Nous lisons ces choses à partir du verset 45, le verset 45. Il, c'est lui, dressera les tentes de son palais entre les mers, dans le plus beau des pays donc, hein, vers la glorieuse et sainte montagne, vous rendez compte? Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide, nous avons vu cela hier soir. Mais la Bible parle de ce jour de l'Éternel comme d'un jour terrible. Zacharie 14, 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. En parlant de froid et de glace, vous en savez quelque chose, hein? J'en ai su quelque chose depuis 3 semaines que je suis ici. Eh bien, ce sera un peu cela, hein, des jours tout à fait difficiles. Et je dois dire que nous avons quelque peu frémi dernièrement, puisque Jérusalem a connu des tempêtes de neige comme jamais précédemment, hein? En tout cas, nous n'avions pas de neige en France, et on s'étonnait qu'Israël et la Jordanie aussi étaient couverts de neige. Verset 12, Zacharie 14 toujours, voici la plaie dont frappera, dont l'Éternel frappera tous ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Une autre version, la synodale, dit, leur chair se fondra tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront également. Leur langue aussi. Alors, bien entendu, il n'est pas toujours facile de rendre les expressions hébraïques. Mais on peut comprendre, disons, les textes comme je viens de les dire de la part de la version synodale. Et ceci rejoindrait tout à fait ce que une conflagration nucléaire pourrait produire. D'effets désastreux. Nous pourrions fondre littéralement debout. Et il ne serait pas étonnant du tout que nous en arrivions à user de nos arsenaux militaires dans cette guerre impitoyable. Oui, cette plaie, verset 15 du chapitre 12, toujours, du chapitre 14, toujours, cette plaie atteindra aussi les bêtes. Mais Dieu d'ajouter, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui seront montées contre Jérusalem. Alors il reviendra, le Seigneur. Très exactement à l'endroit où la gloire, la Shekina de l'Éternel avait quitté la Palestine. Ceci est intéressant. Au livre d'Ézéchiel, au chapitre 11 et au verset 22, vous savez qu'après donc la déportation, après toutes ces choses, la destruction du temple, il est dit que la gloire de l'Éternel se déplaça, la Shekina de Dieu, du temple vers la montagne des Oliviers. Fou cela, hein? Et que, à partir de la montagne des Oliviers, elle repartit vers le ciel. Oui, vers l'Éternel, là-haut. Eh bien, c'est à ce même endroit que l'Éternel posera les pieds, qu'il reviendra sur cette terre. C'est tout à fait intéressant. Mais également, il posera les pieds sur le lieu où il lutta en Jésus-Christ, bien entendu, de toutes ses forces pour nous, à l'endroit où sa sueur s'était transformée en sang. Oui, à l'endroit même où il connut une intensité de combat qui le conduisit jusqu'à l'agonie. Il posera ses pieds là, au jardin des Oliviers. Et il posera ses pieds là aussi, parce que c'est de cet endroit-là qu'il nous quitta, au jour de l'Ascension, voilà 2000 ans. Un autre texte allant dans ce même sens, traitant du combat du Christ glorifié contre l'Antéchrist au jour du grand retour de Christ, nous est rappelé en 2 Thessaloniciens 2:8, le Seigneur Jésus détruira l'Antéchrist, l'homme du péché, par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Mais certains n'étaient pas là. Avant-hier, il me semble, quand nous avons dit que, dans un premier temps, et ceci est tout à fait clair dans les enseignements du Seigneur, dans un premier temps, le Seigneur viendra de manière invisible, uniquement pour les siens, comme le voleur. Dans la parabole, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, le voleur, c'est Christ. Or, un voleur, quand il vient chez vous, il n'envoie pas un fax. Il n'arrive pas avec bruit et fracas. Alors, il doit venir dans un premier temps comme cela. Ça, c'est absolument clair dans les Écritures. Mais dans un deuxième temps, après 7 ans, il reviendra dans toute sa gloire. Alors là, tout œil le verra. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi l'éclat de son avènement. Oui, Daniel nous fait savoir en Daniel 8, 25 que l'Antéchrist se dressera et lancera un défi contre le chef des chefs, c'est-à-dire contre le Christ, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. En Apocalypse 17, 14, l'agneau les vaincra. Qui ? Bien entendu, la bête, l'Antéchrist. Et le faux prophète et les 10 cornes. Les 10 cornes, certains me posent la question, Alain Chouakim, mais vous n'êtes pas 10, vous êtes 12. Et vous allez être bientôt 29. Avec l'entrée massive des pays qui ont été libérés du joug communiste et qui demandent leur entrée dans le marché commun. Dans quelques mois, nous n'avons plus de frontières, nous. Nous allons devenir le pays le plus puissant du monde. Les choses sont en marche. Mais quand la Bible parle de cornes, elle parle de cornes. De cornes à la bête. Or, la bête n'est pas faite uniquement de cornes. La corne dans la Bible parle de quoi ? De force, de puissance. La corne étant la force de frappe de la bête. Il y aura donc, à la tête de la de l'Europe, si vous voulez, 10 puissances. Qui seront la puissance de l'Europe, en fait. Et puis, après ces 10 cornes, la bête tout entière. Hein, la bête faite des pays à l'heure qu'il est dans le marché commun, et puis de pays qui sont sur le point d'y entrer, et en particulier ces pays de l'Europe centrale qui voudront également entrée et qui ont fait partie de l'Europe, de l'Empire romain, de l'ancien Empire romain. Puisque, par exemple, je prends la Roumanie, hein, qui était sous un joug totalitaire marxiste, communiste, et qui en a été libérée. Eh bien, le nom de ce pays rappelle Rome. Roumanie vient de Rome. Mais ce pays était sous empire totalitaire communiste, tandis que maintenant il veut entrer dans le marché commun, ainsi que la Pologne, ainsi que la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc., et d'autres pays de l'Europe centrale. Le Seigneur doit aussi venir pour le reste du peuple d'Israël, mais avant d'entamer ce chapitre, je vais laisser la parole à notre ami qui va vous faire quelques annonces. Je vous retrouve dans quelques instants. Il ne s'agit pas d'une pause café. Alors n'allez pas maintenant prendre votre café. Vous l'aurez tout à l'heure. Mais allons aller vite vers la fin. Je répète, pour ceux qui ne le savaient pas, ces réunions correspondent à une conférence prophétique. Nous ne prêchons pas l'Évangile comme nous le prêchons couramment. Cette semaine, à partir de mercredi et déjà demain soir, je prêcherai l'Évangile. Mais ça ne prendra pas du tout l'allure des réunions que nous avons eues ensemble. Il a été convenu que nous ayons ensemble une conférence prophétique et chaque réunion dure à peu près une heure et demie. Alors, un peu de patience, nous en arrivons nous allons toucher au terme de cette dernière rencontre. Je disais donc qu'il revient pour le reste du peuple d'Israël qui n'aura pas été anéanti. Ce résidu fidèle qui aura été préparé au salut par les deux témoins. Ah, ces deux témoins, qu'est-ce que nous en dit la Bible? Lisons quelques textes rapidement. En Apocalypse 11, verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi, dans la deuxième moitié de ces 7 ans dont il a été question tout à l'heure. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette façon-là. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. » Alors certains ont cru voir par là, disons, Élie revenir, mais ça n'est pas précisé. Alors moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas ce que la Bible ne dit pas. Alors ce pourrait être Élie comme un autre. « Et ils ont le pouvoir de manger. » Certains voient Élie et Hénoc, parce que Hénoc, lui non plus, n'est pas mort. Il a été enlevé, nous l'avons dit avant-hier en parlant d'enlèvement. « Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et l'Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. Mais une Jérusalem apostate. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations, par la télévision et les satellites, n'est-ce pas? La mondiovision, c'est pas écrit ça. Bon, on le devine. Verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes qui les tourmentaient avaient été tués. Mais après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Monte ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent à cette heure-là. Il y eut un grand tremblement de terre, et la 1/10 partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est comme cela que les deux témoins ont préparé les Juifs, le résidu, à la conversion, au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont eu un peu ce même rôle que Jean-Baptiste eut lorsqu'il prépara le chemin du Seigneur. Oui, et combien seront-ils, les Juifs, à être sauvés? Nous ne le savons pas. Mais Zacharie 13:8 dit que précisément les deux tiers périront. Périront par ces tremblements de terre, par cette guerre, la guerre à Jérusalem, etc., par toutes ces armées, ces nations, et qu'il en restera un tiers. Romains 9:27 dit « Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Oh, la conversion de ce résidu, nous l'avons rappelé tout à l'heure en Zacharie 12:10, « Alors je répandrai sur la maison d'Israël et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Hein » Oui, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est tellement clair comme de l'eau de roche, n'est-il pas vrai? La conversion d'Israël comme on pleure sur un premier-né. Il revient aussi, le Seigneur, pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Oh, il y a des psaumes messianiques qui ne se sont pas encore réalisés. Par exemple, quand nous lisons le psaume 47e. Alors, moi, je me demande si ceci s'est déjà réalisé sur la terre. Jamais. Voilà un psaume messianique. J'en prends un comme ça au passage, mais il y en a pas mal dans le psautier. « Vous tous, peuple, battez des mains !» On l'a déjà vécu, cela. « Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a assujettis des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Ô Dieu, monte au milieu de cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi sur toute la terre. Ça ne s'est encore jamais passé. Chantez un cantique, dites Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Moi, je ne l'ai pas encore vu, ça, hein. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, et il est souverainement élevé. Et puis suit encore un autre psaume messianique que la terre n'a encore jamais vécu. Dieu doit revenir en Christ, régner sur cette terre. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, etc. Belle est la colline, joie de toute la terre. Parce que Jérusalem a été la joie de toute la terre jusqu'à présent. Voilà, et nous pourrions ainsi continuer. Mais nous n'avons pas le temps, c'est dommage. Donc, il revient pour régner sur cette terre, c'est très important. Il y a aussi le psaume 100e, hein, que nous connaissons tous et que nous rappelons très souvent dans nos cultes, hein, qui que nous soyons, au sein de nos dénominations, nous aimons rappeler le psaume 100e. Il vient donc pour régner. D'ailleurs, ceci est précisé au livre de Zacharie, le prophète. Après qu'il aura posé ses pieds sur la montagne des Oliviers, ceci est rappelé donc au verset 3, 4 du chapitre 14, verset 9. Ensuite, l'Éternel sera roi de toute la terre. Ça, on ne l'a jamais vu. Oh, nous avons hâte qu'il le soit de cette façon-là. Il apparaîtra dans sa gloire aussi avec son Église, après une lune de miel de 7 ans avec elle, dans son ciel, une fois son épouse enlevée, n'est-ce pas? Alors, il y aura certains événements qui se passeront dans le ciel, on quitte maintenant la terre, hein, pour voir un peu ce qui va se passer pendant ces 7 ans en haut. Pour commencer le tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5:10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En fait, ce sera par ce tribunal le temps des récompenses, le temps aussi des mises en ordre. Mes amis, mettez-vous en ordre avant le tribunal de Christ. Hein. Et s'il y a dans votre église à laquelle vous adhérez des chrétiens, des frères et sœurs que vous n'arrivez pas à gober en peinture, alors allez les voir. Hein. Et puis mettez-vous en ordre avec elles afin que vous soyez en paix avec tous. Parce que sinon, ça ressortira au tribunal de Christ. Et simplement le regard de flamme du Seigneur nous reprendra et nous jettera à ses pieds face contre terre. Oh, dans la repentance, parce que nous n'aurons pas réglé ces questions-là sur cette terre. Réglez toutes vos questions. Oh, que le Seigneur me donne de les régler toutes aussi. Hein. Réglez tous vos problèmes. Et puis, voyez-vous, bon, nous sommes ici peut-être de plusieurs dénominations différentes, mais nous sommes destinés à vivre ensemble éternellement là-haut. Alors, il faut commencer d'apprendre ça, hein, ici-bas. Et puis, dans une église, une seule église aussi, comme celle d'Annecy, tout près d'ici, par exemple. Il faut que nous nous aimions tous et que nous nous entendions, que nous soyons dans l'unité et l'harmonie. Pourquoi ? Parce que nous sommes destinés à vivre éternellement ensemble. Est-ce que vous croyez que nous allons transporter nos problèmes là-haut ? Alors nous ferions du ciel un enfer. Hein ? Certainement pas. Alors réglons nos affaires. Mettons en ordre notre comptabilité, par exemple. Hein ? Oui, avec le Seigneur et puis avec les hommes. Hein ? Et puis tout le reste. Oh, le tribunal de Christ. L'apôtre Pierre en a parlé, lui aussi. De cette façon-là, 1 Pierre 4, 17, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et Jésus a dit en Matthieu 5, 12, votre récompense sera grande dans les cieux, mais pour ceux qui recevront une couronne pour récompense. En fait, leur couronne, ils la jetteront aux pieds du Seigneur, parce que lui seul est précisément digne de recevoir toutes les couronnes pour cette œuvre de rédemption qu'il a accomplie parmi nous sur cette terre, voilà 2000 ans. Voilà pour commencer donc le tribunal de Christ, et quand toutes nos choses auront été réglées, mais réglez-les avant, hein. Bon, les noces de l'agneau. Ah, nous savons combien déjà des noces ici-bas sont heureuses, joyeuses, mais très souvent, elles se finissent dans le divorce, il faut le dire aussi ce qui est. Bien malheureusement, tandis que ces noces de l'agneau, ces noces spirituelles, notre réunion avec lui, Apocalypse 19, 7, les noces de l'agneau sont venues et son épouse, l'Église, s'est parée et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous croyons au salut par la seule foi. Hein. Nous croyons au salut par la grâce, mais nous y croyons souvent tellement que nous en oublions complètement les œuvres. C'est grave, cela. Je vous pose une question. Mon ami, mon frère, ma sœur, y a-t-il des œuvres à ta foi ? Jacques a dit, la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est morte. Où est notre foi, hein ? Où en est-elle ? Alors attention, là ça va, dans ce jour-là, ça va ressurgir cela, tes œuvres, hein, à ta foi. Pas des œuvres pour te sauver, les œuvres de ta foi. Ces œuvres que je t'avais préparées d'avance, pas n'importe quelles œuvres. Éphésiens 2, 10, des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, des œuvres que le Seigneur a mis devant nous. Est-ce que nous sommes entrés dans ce chemin d'œuvre pour manifester que nous avons déjà la foi et pour glorifier notre Dieu ? Ah, si nous n'avons pas d'œuvre, nous allons être comme des ouvriers qui auront à rougir. Une foi morte, ça sert à quoi ? Une foi inutile ? Oui, les noces de l'agneau. Et la Bible dit au verset 9 de ce même chapitre 19 d'Apocalypse, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Est-ce que vous l'êtes ? Est-ce que vous l'êtes ? Est-ce que vous avez répondu à cet appel? Est-ce que vous avez répondu à l'appel d'amour du Christ? Oh, je me souviendrai toujours de ma sœur ici, Madame Pellissier. Une Française qui est parmi nous. Et le Seigneur a permis, il y a 25 ans, un peu plus, que nous nous rencontrions. À ce temps-là, j'étais à Paris, je ne voyageais pas. J'implantais de nouvelles églises. Et j'en ai implanté une avec Madame Pellissier ici. Et le Seigneur a béni ce travail. Je vous en ai dit un mot ce matin, de sorte qu'après 25 ans, après cette première église que nous avons créée ensemble, nous en sommes à 10 églises, mais notre église à Nation est beaucoup trop petite. Nous sommes obligés de faire deux cultes, un culte le matin, un culte l'après-midi, parce que nous ne pouvons pas recevoir tous ceux qui viennent. Nous avons vécu un véritable réveil spirituel dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous en avons vu venir au Seigneur au moins une âme toutes les semaines. Vous vous souvenez? On priait pour cela. Seigneur, sauve une âme cette semaine. Ajoute-la à notre Église. Le Seigneur le faisait. Il l'a fait pendant des années. Alors le Seigneur appelle. Le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu as répondu? Est-ce que tu vas vers les noces de l'agneau ou vers ces jugements épouvantables vers lesquels le monde marche et qui sera terrible? Est-ce que tu chemines vers la perdition éternelle ou vers le salut éternel avec le Christ dans son ciel de gloire? Moi, quand je prêche sur ces choses, j'aime prêcher le ciel, hein. Hier, je vous ai dit, je préfère prêcher Christ que l'antéchrist, mais j'étais obligé de prêcher l'antéchrist. Mais pas pour qu'on l'accepte, hein. Pour qu'on le refuse, pour que ce soit clair. Oui, la Bible dit qu'il apparaîtra dans ce retour en gloire avec son Église. Oh oui, ces chrétiens qui seront passés par, j'allais dire, cette métamorphose, pour être aussi glorifiés dans le Seigneur, dans leur corps aussi. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. En ce jour-là, les chrétiens, il sera, lui, le Christ, glorifié dans ses saints et admiré aussi avec lui dans sa gloire. Le Seigneur sera admiré en toi, mon frère. Hein? Pour le moment, peut-être qu'il n'est pas tellement admiré des autres. Leur corps aussi. 2 Thessaloniciens 1, verset 10, en ce jour-là, les chrétiens, il sera, lui, le Christ, glorifié dans ses saints et admiré aussi avec lui dans sa gloire. Le Seigneur sera admiré en toi, mon frère. Hein? Pour le moment, peut-être qu'il n'est pas tellement admiré des autres membres de l'Église qui pointent un doigt accusateur. Hein? Oui, il est chrétien, oui. Mais il y a ça qui ne va pas chez lui. Hein. C'est très souvent ce qui se passe dans l'Église. Mais une fois rendu avec le Seigneur, le Christ lui-même sera glorifié en nous. Et dit le texte, admiré en nous. C'est merveilleux. Hein. De telle façon que lorsqu'on se regardera les uns les autres, on resplendira de la gloire du Seigneur. Dans des corps glorifiés, là aussi. Ne pensez pas, je le disais tout à l'heure avant la réunion à quelqu'un, le Seigneur est venu sauver des âmes, mais plus que ça aussi. C'est déjà beaucoup, les âmes. Hein. C'est remarquable, mais il est venu aussi sauver notre être tout entier. Votre corps doit changer. Hein. Il doit être rendu semblable au corps de Christ. Oui, à celui qu'il a revêtu après sa résurrection, à son corps glorifié. Vous vous souvenez de Philippiens 3, 20, où l'apôtre Paul dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation. » Vous savez, ce corps-là, hein, bien que renfermant une âme sauvée, a en lui une semence de mort, le poison du péché. Encore, ça n'est pas un corps glorieux, ça. Tous nos problèmes à l'heure qu'il est, c'est que une âme régénérée habite encore un corps qui ne l'est pas. Voilà pourquoi le combat entre le nouvel homme et le vieil homme, la nouvelle femme et la vieille femme. Vous connaissez ces choses, en tout cas. Mais quand nos corps auront revêtu l'incorruptibilité, quand ils seront rendus glorieux, la Bible dit, le corps est semé infirme pour ceux qui mourront avant le retour du Christ. Le corps est semé infirme, il ressuscite glorieux. À l'image du corps de Christ dans la gloire. Et puis l'apôtre Jean a rejoint l'apôtre Paul quand il a écrit ce qui suit. En 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, dit Jean. Mais ce qui sera n'a pas encore été manifesté, dit-il. Mais lorsque cela sera manifesté, alors nous serons semblables au Christ parce que nous le verrons tel qu'il est. Il nous faudra être adaptés à l'environnement du Seigneur. À quel moment cette métamorphose de notre corps se fera-t-elle ? Au retour du Christ dans ce premier temps de l'enlèvement. En un clin d'œil, en un atome d'instant, littéralement, dans le grec, n'est-ce pas ? Nous serons changés. Il faut que nous le soyons, parce que la Bible dit que Dieu, dans l'intensité de sa gloire, dans l'écrasante majesté de sa personne, nous écraserait littéralement. Si nous devions le regarder en face, nous ne pourrions pas, Jean, dans cette vision qu'il a eue en Apocalypse 1, était tombé sur sa face. Et pourtant, ce Jean-là était celui qui posait sa tête sur le sein de Jésus. Quand le Christ était là, quelques années auparavant, quelques temps auparavant. Mais oui, nos corps ne pourraient pas supporter l'éblouissante majesté du Seigneur. Ils doivent être transformés à l'image de son corps, à lui. Nous lui serons semblables. Moi, je n'en reviens pas. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nos corps seront alors resplendissants d'une santé, spirituelle et morale, quelque chose d'inouï. Ils ne connaîtront plus la maladie ni l'infirmité. C'est fini tout cela. Tandis que pour le temps présent, ces corps-là restent des corps de péché. Voilà pourquoi ils peuvent tomber malades. Voilà pourquoi. Mais quand ils revêtiront l'incorruptibilité, quelle grâce et quelle perspective! Mais la Bible nous fait savoir qu'on se reconnaîtra quand même, hein, Madame Bélisier, moi je vous reconnaîtrai. D'ailleurs, je vous ai reconnu après bien des années. C'est remarquable. On se reconnaîtra les uns les autres dans la gloire du Seigneur, et puis le Seigneur sera glorifié en nous tous. Il apparaîtra aussi avec les anges de sa puissance. Oh, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, dit la parole de Dieu, le Fils de Dieu doit venir. Il apparaîtra aussi avec les anges de sa puissance. Oh, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, dit la parole de Dieu, le Fils de Dieu doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, dit Matthieu 16, 27. Avec ces mêmes anges, ces légions d'anges dont il n'avait pas voulu pour être secouru avant la croix. Hein? Non, parce que volontairement, il avait voulu donner sa vie. Là, les anges dont il n'avait pas voulu pour être secouru avant la croix. Hein? Non, parce que volontairement, il avait voulu donner sa vie. Là, il descendra avec eux. Un déploiement de gloire, un déploiement de puissance, un déploiement de lumière comme la terre n'en aura jamais connu. Oh oui, est-ce que je peux encore continuer un peu là ? Les commandes de son apparition. Les commandes de son apparition. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Alors ce cheval blanc n'est pas le cheval blanc d'Apocalypse 6. Lequel cheval blanc était celui de l'Antéchrist. Je vous l'ai dit hier ou avant-hier, l'Antéchrist a toujours voulu faire comme Christ. Le singer, hein, pour jeter la confusion et le désarroi. Mais cette fois, c'est le vrai. Hein. Alors, je vis un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il a justice. Cette façon de voir le Christ parle justement d'un juge en même temps que d'un guerrier, puisqu'il est écrit « Il juge et combat ». Alors il juge et combat qui, l'Antéchrist et toutes ses armées, venues à l'assaut de Jérusalem et surtout contre le peuple juif pour l'anéantir définitivement. Mais nous serons avec lui. C'est écrit en Apocalypse 19, quelques versets plus loin, verset 14, sur des chevaux blancs. Est-ce que vous savez faire de l'équitation ? Il faut commencer à apprendre. Hein ? Moi, je ne sais pas monter un cheval. Mais enfin, vous inquiétez pas, on n'aura pas besoin d'apprendre. Ça viendra tout seul. Oui, nous serons montés sur des chevaux blancs, symbole de force, derrière le Seigneur, hein ? Symbole de pureté, de victoire et de triomphe. Est-ce que tu monteras ton cheval blanc, hein, après le Seigneur ? Ou bien est-ce que tu seras perdu à jamais dans cet étang de feu et de soufre dont parle la parole de Dieu ? Voilà comment il apparaîtra aux nations. Comment est-ce qu'il apparaîtra à Israël ? Comme l'agneau glorifié. Oui, Apocalypse 14, 1. Je regardais disant... Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. L'agneau ? C'est curieux, ça. Pour les nations, un cheval blanc. Hein. Pour Israël, un agneau. L'agneau glorifié. Sur la montagne de Sion, avec les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ah, pour leur rappeler l'agneau de l'Égypte. Hein, qui les délivra du joug égyptien et de la main de Pharaon. L'agneau, pourquoi ? Parce que les Juifs avaient eu du mal à accepter la première venue du Messie dans l'humiliation. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce fut le message de Jean-Baptiste et Israël n'en avait pas voulu. Alors pour Israël, ce retour de Christ leur apparaîtra comme l'agneau au milieu des 144 000, pour leur donner enfin de l'accepter, cet agneau qu'ils ont toujours refusé. Il est important à présent, dès à présent, de commencer d'apprendre à connaître le Seigneur de gloire. Pourquoi est-ce que je dis ceci ? Parce que la Bible insiste beaucoup sur l'humiliation de Jésus-Christ. Par exemple, depuis Matthieu jusqu'à Jude, l'emphase est mise sur l'humiliation du Fils de Dieu. Et nous n'aurons jamais, jamais, jamais fini, je crois même que l'éternité peut-être ne suffira pas, pour que nous apprenions à connaître le Christ dans son abaissement. Oh, dans son humiliation pour notre salut. Mais la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 5, il dit, si nous avons connu le Christ du temps de son vivant selon la chair, c'est fini. On ne le connaît plus de cette façon-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure qu'il est, il s'agit du Christ glorifié. Et si vous voulez une idée de ce Christ glorifié, alors cette vision de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, le Christ en gloire, et le Seigneur voudrait que nous apprenions à le connaître dans toute sa gloire. Et le livre de l'Apocalypse est précisément le livre dans la Bible qui exalte le plus la gloire de Jésus-Christ. Dans sa position actuelle, parce que c'est fini, le Christ immolé, crucifié, certes, c'est l'agneau toujours, mais cet agneau hein, d'Apocalypse 5, avec ses sept yeux, ses sept esprits qui parcourent toute la terre, oui, et la colère de l'agneau, dit la Bible, et sera pour le monde une affaire terrible, en même temps que terrible aussi, pour Israël. Oh, Jésus a fait cette prière en Jean 17, 24, vous savez cette prière ? Il a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Pourquoi ? Qui c'est la suite ? Afin qu'il voit ma gloire. Oui, est-ce que vous la voyez, la gloire de Dieu ? Nous tous qui le visage découvert, de Corinthiens 3, 18, contemplons, nous tous qui contemplons le visage découvert, la gloire du Seigneur, comme dans un miroir. C'est quoi le miroir? La parole de Dieu. Nous pouvons donc commencer de contempler cette gloire. Est-ce que vous la cherchez quand vous lisez les Saintes Écritures? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir celui de la parole de Dieu, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais ce texte est pour nous déjà, hein, en attendant de le contempler face à face. Vous savez, vous ne pouvez pas rester, bientôt nous allons vers des temps un peu plus doux, un peu plus chauds, hein, j'espère pour vous en tout cas. Mais on ne peut pas s'exposer au soleil sans emporter la marque. Et le Seigneur voudrait que déjà nous nous exposions aux rayons du soleil de justice pour rechercher ce bronzage spirituel. Hein. Ce bronzage intérieur. À partir du soleil de justice, parce que bientôt, j'ai commencé de voir ça déjà, des Québécois sur leur balcon en train de... Hein, au soleil. Mais moi, je parle d'un autre bronzage. Quand le soleil de justice nous marque, et quand nous le reflétons ensuite. Un bronzage du soleil physique, c'est déjà beau, mais c'est loin d'être le bronzage spirituel. Alors nous sommes invités à ce bronzage spirituel. Moïse était allé sur la montagne. Il avait contemplé la gloire de Dieu. En descendant de là, son visage rayonnait. Parce qu'on ne peut pas contempler le Seigneur sans en porter la marque. Et le Seigneur voudrait que nous la portions, cette marque, sur nous, déjà sur cette terre. Parce que nous sommes de ceux et celles qui le contemplons dans sa gloire, déjà sur cette terre. On m'a rapporté, quand j'étais aux études théologiques, l'histoire d'un missionnaire qui aimait passer du temps avec son maître. Et il y passait tellement de temps que, j'allais dire, il rayonnait le maître. Hein. Il transpirait le maître. Et vous savez comment il avait été appelé par ces Noirs là, vers lesquels il était allé pour les évangéliser? Ah, ces Noirs avaient coutume de l'appeler, parce que c'était un homme assez âgé, hein, après des années. Tellement il rayonnait la personne du Seigneur, ces Noirs l'avaient appelé « vieille face de gloire ». Vous avez bien aimé ça, hein ?« Vieille face de gloire ». Oh, puissions-nous justement être ces vieilles faces de gloire. On l'accepte, hein ? On l'accepte pour rayonner cette présence du Seigneur, afin que beaucoup soient atteints et aient l'occasion d'être sauvés. Mes amis, à partir de là, du retour en gloire du Seigneur, et je terminerai avec ces mots. La Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, les eaux qui la recouvrent. On dirait qu'on rêve. Hein ? Pourtant, c'est écrit et ça doit se passer. Tel que c'est écrit, toute la planète Terre apprendra à connaître le Seigneur à partir du gouvernement de Jésus-Christ à Jérusalem. Et puis tout changera aussi. À propos des Juifs, la Bible dit que 10 hommes saisiront un Juif par la veste. Et pour lui dire, oui, nous irons avec toi à Jérusalem parce que nous avons réellement remarqué que l'Éternel est avec vous. Je vous lis le texte. En Zacharie chapitre 8, ainsi par l'Éternel des armées, verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, de toutes les nations. Imaginez un arabe en train de tenir la veste d'un juif. Ça va se faire. Un québécois aussi, oui. Hein. Oui, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisira un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Quel temps! Et c'est dans ces temps-là qu'Israël deviendra le peuple missionnaire qu'il n'a pas été. Et que Dieu attendait qu'il soit, qu'il fût. Il deviendra donc ce peuple missionnaire. Et cette prophétie d'Ésaïe 46 verset 9 ou 49 verset 6, vous vérifiez tellement de textes dans la tête que ça fait tilt. C'est à ce moment-là que réellement, alors, Israël portera la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités du monde. Vous n'avez pas envie que ça se passe le plus vite possible. Alors, comment est-ce qu'on peut se saluer au terme de ces rencontres ? Maranatha, qui signifie « Viens bientôt, Seigneur Jésus ».